Est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? Amen. Vous savez ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui devient comme le maître. Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Et un petit peu moins de Amen. Est-ce que Jésus... Vous savez ce que Jésus faisait? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, et délivrant les démoniaques, ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Je ne sais pas si vous avez déjà guéri une personne, si vous avez déjà chassé un démon, si vous avez déjà fait le bien autour de vous, mais c'est ce que Jésus veut faire au travers de vous. Jésus nous a sauvés, non pas pour que nous devenions un petit groupe sympa, même une famille, comme j'ai pu le prêcher. Et Jésus veut que chacun de nous, nous devions des disciples réels de Jésus-Christ. Et un disciple, il fait comme le maître. Il fait les mêmes choses que le maître. C'est-à-dire que Jésus, à Granby, traverse les rues cherchant à faire le bien. Peut-être il sait qu'il doit acheter du pain, il sait qu'il doit faire ceci et cela, mais il cherche à faire le bien autour de lui. Jésus cherche toujours quelqu'un à bénir. Il cherche toujours quelqu'un qu'il pourra bénir. Et le cœur d'un disciple, il est tel que celui du maître. Il est le même. Le disciple de Jésus-Christ, c'est un homme, une femme qui a été rachetée par le sang de Jésus-Christ et qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour manifester l'amour de Jésus dans sa vie personnelle. La personne qui vient à Jésus seulement pour son bien-être personnel sera rachetée, sera sauvée, mais comme au travers du feu. Jésus est venu appeler des disciples. Jésus n'est pas venu appeler des convertis. Jésus est venu appeler des gens qui deviennent comme lui-même, prenant sa nature, prenant ses sentiments, prenant ses pensées. Jésus veut faire de vous des Jésus. Jésus veut faire de vous des disciples de Jésus-Christ, des petits Christ. Et Dieu veut que vous puissiez manifester, que nous puissions manifester l'amour de Jésus. Dans beaucoup d'églises, et l'Église, on sait qu'elle est universelle. Donc dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies, Jésus n'est plus manifesté. Ce que Jésus veut, c'est la manifestation de qui il est. Ce que Dieu a voulu au travers de notre nouvelle naissance, ce n'est pas seulement notre salut, ce n'est pas seulement nous bénir, mais c'est pouvoir bénir d'autres personnes, c'est pouvoir toucher d'autres gens. Vous n'imaginez pas tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. La Bible dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. La Bible dit qu'il a tracé devant nous un chemin nouveau, non pas un chemin par lequel tu passes tous les jours. Il n'y a pas un dimanche qui doit être comme tous les dimanches. Il y a toujours quelque chose de nouveau en Jésus. Jésus a dit « Choisis la vie et la mort. » Entre la vie et la mort. Et Jésus nous a aidés et nous a dit « Choisis la vie. » Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent la mort dans leur vie personnelle. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. C'est tout ce qui est contraire à la vie de Dieu en nous. C'est tout ce qui va à l'encontre de la parfaite volonté de Dieu sur cette terre. Jésus a dit « Ma volonté, c'est qu'aucun ne périsse. » C'est qu'aucun ne périsse. Il est anormal qu'aujourd'hui nous soyons si peu de personnes autour d'un monde qui souffre. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Regarde comme elles sont nombreuses. Et Jésus veut nous dire de regarder les étoiles. Les étoiles sont là chaque nuit. Lorsque nous dormons, chaque nuit, les étoiles sont là au-dessus de nos têtes. Et il y a beaucoup de gens qui ne regardent plus les étoiles. Beaucoup de gens qui vivent leur vie de tous les jours et ils ne s'arrêtent jamais pour regarder ces étoiles. Et Dieu a dit à Abraham, regarde ces étoiles. Regarde ta destinée. Regarde ces étoiles parce que chacune de ces étoiles, c'est une personne qui fait partie de ta postérité. Il y a pendant que vous dormez, des étoiles qui pleurent. Il y a pendant que vous dormez, des étoiles qui souffrent. Il y a pendant que vous dormez des gens qui se séparent. Il y a des crises conjugales. Il y a des femmes battues. Il y a des enfants maltraités. Et ce que Jésus veut, c'est que nous puissions nous réveiller. C'est que nous puissions sortir de notre sommeil. Parce que les étoiles sont là dans la nuit. Là où il faut dormir normalement. Jésus a dit qu'il travaillait jour et nuit. Parce qu'à un moment, on ne pourra même plus travailler. Mais aujourd'hui, nous pouvons travailler pour Christ. Aujourd'hui, nous pouvons manifester Jésus. Dieu a vraiment un cœur pour les perdus. Et une église qui oublie cela. Et quand je parle d'église, c'est un individu. Je ne parle pas d'une église particulière. Mais une personne, un disciple de Jésus-Christ, qui oublie que la seule raison pour laquelle il a été sauvé et la seule raison pour laquelle il a été rempli du Saint-Esprit, c'est pour manifester l'amour de Dieu. Comment on peut manifester l'amour de Jésus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que la Bible nous a dit, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens parmi nous, moi-même. Combien de fois Dieu nous a parlé? Le Saint-Esprit est venu tranquillement à notre oreille et nous dire, fais ceci, fais cela. Va voir telle personne. Écris cette lettre. Et parfois, notre âme nous empêche d'entrer dans ces choses. Souvent, nous nous disons, mais cette parole vient de moi certainement. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que parfois, nous n'y prenons pas garde. Et nous devons être attentifs à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, Dieu vous aime. Dieu veut répondre à tous vos besoins. Dieu veut guérir vos maladies. Dieu veut vous bénir vraiment. Il a vraiment un cœur pour ça. La Bible dit que ses pensées pour vous, en tant qu'individu, sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Dieu a vraiment des pensées pour vous, pour vous bénir. Il essaie d'amener des routes, des personnes sur votre route pour que vous puissiez être bénis. Et quand vous passez par là, il essaie d'amener une autre personne. Il essaie d'amener une parole dans une prédication. Il essaie d'amener même une parole à la télévision. Mon père est venu au Seigneur en regardant, en allumant son poste de télévision. Il était dans la forêt. Ça faisait des années et des années et des années qu'on allait à l'église. Et lui venait avec nous, mais jamais il n'avait été touché par Dieu. Et un dimanche matin, alors qu'il venait d'habitude avec nous, c'était l'époque des champignons. Et il aime bien cueillir des champignons. Il est allé dans cette forêt, et dans cette forêt, il a entendu la voix de Dieu lui dire, « Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et il a vraiment été troublé. Il est rentré à la maison, il a allumé son poste de télévision. Et là, la première parole qui est sortie, c'était, « Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » C'était un prêtre qui prêchait dans une église catholique. Dieu veut faire par notre vie, par votre vie, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Cela ne dépend pas de vous. Cela ne dépend pas de vous. Juste avant de partir pour le Canada, le dernier dimanche dans notre église locale, il y avait un ministère qui était là et il ne savait pas que je partais. Et il a prophétisé pour moi par rapport à mon appel. Et par rapport à ce qu'on allait vivre ici. Et je disais au Seigneur, merci vraiment, pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi toute ma vie j'ai vu ta main agir? Pourquoi j'ai l'impression de me sentir si spécial? Et Dieu m'a dit, il ne s'agit pas de toi. Et vous savez, il ne s'agit pas de vous. Vous ne vivez plus pour vous-même. Votre corps ne vous appartient plus à vous-même. Vos pensées, votre âme, votre esprit... Ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. C'est une puissante réalité. Mais nous sommes peu à y être entrés. Si vraiment Christ vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est toujours l'espérance d'un changement. C'est toujours l'espérance d'un salut. C'est toujours l'espérance d'une bénédiction pour quelqu'un. Dieu veut bénir. Et il n'utilisera pas des inconvertis, pour bénir des inconvertis. Mais il t'utilisera toi pour leur parler, pour les bénir. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous puissiez vraiment devenir des disciples. Des gens qui font comme lui. Jésus nous a montré exactement la voie à suivre. Sa parole n'a pas été compliquée. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien autour de lui. Et Jésus a dit, « Je ne fais rien par moi-même. Mais tout ce que je fais, je le fais parce que je l'ai vu de mon Père, parce que mon Père me l'a demandé. » Est-ce que je pourrais avoir ta montre, s'il te plaît? J'ai plus de piles dans ma montre, alors il faut que j'en achète une. Dieu veut faire bien des choses. Mais nos façons de penser, merci. Nos façons de penser et le fait que beaucoup parmi nous, nous vivons pour nous-mêmes, empêchent la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient pour un mariage. Beaucoup de gens qui prient pour les finances. Beaucoup de gens qui prient pour un travail. Beaucoup de gens qui prient pour avoir des enfants. Beaucoup de gens qui prient pour avoir des changements. Beaucoup de gens prient. Mais ils ne réalisent pas que s'ils s'occupent du royaume de Dieu et de sa justice, toutes ces choses, ils les auront par-dessus. Jésus a dit, si tu t'occupes de mon royaume, si tu t'occupes de ma justice, si tu t'occupes de faire les choses qui sont justes, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Ce que Dieu veut dans une église, ce sont des gens radicalement concentrés sur Christ. Ce sont des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Ce sont des gens à qui Dieu peut dire « Arrête de faire ça » et ils arrêtent. « Va ici » et ils vont là. « Parle à telle personne » et ils le font. Dieu veut utiliser l'Église. Dieu veut amener un réveil dans l'Église. Mais le réveil, comme a dit quelqu'un qui priait pour le réveil, Dieu lui a dit « Trace un rond par terre ». Il a tracé un rond. Dieu a dit « Mets-toi dans ce rond ». Il a été dans ce rond. Et Dieu lui a dit « Si seulement le réveil venait dans ce rond ». Dieu veut. Beaucoup de gens prient. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour que Dieu amène un réveil. Mais vous savez quoi? Le réveil est déjà là. N'attendez pas de voir des signes. N'attendez pas de voir des miracles pour croire que le réveil est là. Le réveil est dans ton esprit. Le réveil est venu tabernacler en toi. Il est venu prendre toute la place en toi. Il est venu habiter en toi. Je suis désolé si pour certains ce message, ça ne va pas vous remplir. Parce que ça ne remplira que les gens qui ont soif d'un changement. Que les gens qui veulent vraiment devenir disciples de Jésus-Christ. Si seulement tu réalises qu'il a tout mis en toi, si seulement tu réalises que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vivent en toi, tu seras un homme, une femme nouvelle. Dieu a dit dans sa parole, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui est spirituel à ta nouvelle naissance est devenu nouveau. Constamment, complètement nouveau. Ton corps est resté exactement le même, à moins que tu aies été guéri miraculeusement. Ton âme est restée la même. Tes façons de penser, tes sentiments, tes raisonnements, ta mémoire, ton intelligence. Mais toutes choses sont devenues nouvelles dans ton esprit. Tout ce qui venait, tes pensées, l'oppression dans tes pensées, de l'oppression spirituelle, tout ce que le diable voulait faire contre toi n'a plus aucun pouvoir si tu marches dans ton autorité. En fait, si je réfléchis de temps en temps, je ne réfléchis pas vraiment, j'attends ce que Dieu va dire parce que ce n'est pas mon message. Donc soyez patients envers moi. Beaucoup de gens regardent vers le passé et n'arrivent pas à voir de futur se lèvent le matin, pourtant ils sont chrétiens, ils sont découragés, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont fatigués d'aller au travail. Ils sont fatigués de mener leur vie comme ils l'amènent. Mais la Bible dit que celui qui est rempli de l'Esprit, il est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de celui qui est né de l'Esprit, c'est la même chose. Un homme, une femme qui est rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir à l'avance ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Un homme qui commence à faire, une femme qui commence à faire la même chose tous les jours, constamment, qui commence à dire les mêmes paroles toujours, c'est un homme qui a besoin d'être rempli à nouveau, qui a besoin de manifester à nouveau la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu utilise les gens qui sont remplis de feu. Mais ce n'est pas vraiment exact. Dieu, vous savez par qui il est intéressé? Par les gens qui sont secs. Par les chrétiens qui sont secs. Par ceux qui ne voient aucun fruit dans leur vie chrétienne. Par ceux qui ont plein de questions qui ne sont pas répondues. Par ceux qui sont fatigués de leur vie. Par ceux qui ont vécu des difficultés et ne comprennent pas pourquoi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Et Dieu a un cœur pour les malades. Et tu dois avoir un cœur pour les malades. La Bible dit que le désir de Dieu, profond, c'est d'amener une rivière là où il y a la sécheresse. C'est de faire des sources partout. C'est d'amener l'eau de son esprit, le vent de son esprit, dans ce monde desséché. Dieu désire que tu puisses redevenir cette source, que tu puisses laisser couler ce fleuve qu'il a mis en toi. La Bible dit que des fleuves d'eau vive jailliront de notre esprit. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Et pourtant, nous devons y arriver. Nous devons arriver à manifester les fleuves d'eau vive que Dieu a mis en nous. Si tu vis pour toi-même, tu ne pourras pas manifester les choses de Dieu. Il y a bien des gens, ils vont à l'église, oui, Dieu les aime, comme je vous l'ai dit. Il veut vraiment les bénir, parce qu'il les aime vraiment. Mais ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leurs besoins, qu'à leur avenir, qu'à leurs enfants, qu'à leurs finances, qu'à leur travail. Constamment dans leur bouche, ce sont des choses charnelles, des choses de la vie. Mais Dieu aimerait que ces gens-là, il aimerait faire jaillir le fleuve qui est en eux enfui. Il y a un fleuve dans votre vie. Il y a un réveil à l'intérieur de vous. Il y a toutes les paroles que Dieu veut donner dans votre esprit. Il y a toute la volonté parfaite de Dieu qui est déjà à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Au début de ma vie chrétienne, je criais à Dieu, je criais. Et je crie encore, mais pas pour les mêmes choses. Et je disais, mais Dieu, où es-tu? Et beaucoup de gens croient que Dieu se cache, mais Dieu ne se cache pas. Vous connaissez Trouver Charlie? Dieu, ce n'est pas Charlie. Dieu se laisse seulement trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver. Dieu n'est pas un tyran pour te rencontrer et te dire, je vais vraiment bénir ta vie. Je vais vraiment faire des choses merveilleuses pour toi. Oui, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Rencontre-moi demain à tel endroit. Et le lendemain, tu vas à tel endroit et Dieu n'y est pas. Dieu s'est caché. Dieu n'est pas comme ça. Dieu se laisse trouver. Si tu as foi en la parole de Dieu, je réalise qu'on a vraiment besoin de cette foi. Vous savez, pas cette foi qui s'apprend en allant de réunion en réunion. On essaie d'augmenter notre foi par nous-mêmes. Mais la vraie foi de Dieu qui croit en la parole, cette foi qui jaillit de notre esprit. La Bible dit la foi de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé d'avoir la foi. Dieu t'a demandé d'avoir la foi de Dieu. C'est-à-dire la foi qui vient de Dieu. Ce n'est pas par ta propre foi que tu arriveras à manifester l'amour de Dieu. Ce n'est pas par ta propre foi que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est par la foi de Dieu. Nous n'avons rien à faire par nous-mêmes. Nous n'avons rien à accomplir par nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir excellents, et c'est une bonne chose, qui travaillent sur le leadership, travaillent sur le management, travaillent pour devenir de plus en plus éloquents, mais Dieu ne nous a pas demandé de devenir éloquents. Dieu nous a simplement demandé de manifester sa grâce. On va lire dans Éphésiens 1:3, et là je vais à mon message, qui fait 2 heures environ. Je sais que vous êtes patient, puisque la patience est dans votre esprit. On va voir ce qu'ils sont vraiment ce matin. Éphésiens 1, au verset 3. Dans cette introduction, j'ai seulement voulu donner la pensée de Dieu qui m'a donné ce matin, de dire que Dieu aime les gens et il aimerait vraiment que vous puissiez vous occuper d'eux. Hier, il y avait devant la merveilleuse maison qu'on habite des gens, un couple, une famille qui est venue sur le, au lac en fait pour voir, ils étaient là en train de la regarder et moi j'étais en train de prier pour ce message. Et j'ai ouvert mes rideaux et je les ai vus et je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien aller leur parler. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai préféré leur écrire une lettre. Et j'ai écrit une lettre. Je suis passé par l'autre côté. Je l'ai posé sur leur voiture. Et je suis revenu chez moi. Vous savez, il n'y a pas une façon d'évangéliser. Il n'y a pas une façon d'annoncer l'évangile. Comme je vous l'ai dit, Dieu parle de 1000 manières différentes. Dieu a 1000 façons de parler à quelqu'un. Tout ce qu'il faut, c'est se laisser inspirer. Et au moment où je déposais la lettre, j'ai vu qu'en fait, ils étaient en train de revenir. Je suis parti simplement. Et je les ai regardés ouvrir la lettre. Et dans cette lettre, il y avait une parole de Dieu pour eux. Vous savez, vous avez tous des mains. En tout cas, je l'espère. Et ces mains, elles peuvent faire quelque chose dans ce monde. Les mains que Dieu vous a données, elles ne sont pas là simplement pour faire la cuisine. Elles ne sont pas là simplement pour gagner un salaire à la fin du mois. Mais ces mains sont là pour amener et manifester le royaume de Dieu, manifester l'amour de Jésus-Christ. Et Dieu a bien des façons de bénir les gens. Si nous pouvions vraiment être attentifs, ce serait une bonne chose. Soyez vraiment inspirés. Éphésiens 1:3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a élu avant même que tu existes dans le naturel. Et si Dieu t'a élu avant ton existence, Dieu ne s'attendait pas à utiliser quelque chose qui viendrait de toi. Si Dieu avait voulu nous utiliser pour nos dons propres, il nous aurait d'abord mis à l'épreuve. Il aurait regardé nos facultés. Et s'il avait été satisfait, il nous aurait engagés. C'est ce que fait un patron. Il emploie quelqu'un pour une période d'essai. Il regarde si cette personne est vraiment faite pour ce travail. Si cette personne n'est pas faite pour ce travail, il le renvoie. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas eu le temps de voir si tu allais être capable de faire ce qu'il t'a demandé. Mais Dieu t'a engagé avant même qu'ils puissent voir s'ils pouvaient vraiment compter sur toi. Dieu t'a élu car tu es sa création, tu es son ouvrage, tu es sorti du cœur de Dieu. David va dire en courant vers Goliath une puissante vérité. Dans 1 Samuel, il va lui dire « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David savait qu'il ne comptait pas sur ses propres forces. Mais vraiment, il comptait sur Dieu. David savait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu nous choisissait car il savait qu'il pouvait compter sur nous, il n'y aurait donc aucun échec dans la vie chrétienne, aucun échec dans le ministère. Tous réussiraient parfaitement. Si Dieu nous avait élus, pensant que ça valait vraiment le coup d'investir sur nous, de mettre sa confiance en nous, il se serait largement trompé. Effectivement, il y a bien des gens qu'il a mis, il a investi. Beaucoup de gens qu'il a sauvés et qui sont tombés sans jamais se relever. Beaucoup ont reçu de grands appels sur leur vie et sont morts sans jamais y être entrés. Si un jockey, vous voyez ce que c'est un jockey ? Il va choisir un cheval de course. Il va choisir celui qui est le plus fort, celui qui est le plus robuste, celui qui a la meilleure lignée familiale, celui qui est le plus rapide, celui qui a le plus de chances de l'amener dans la victoire. Sa motivation au jockey n'est jamais de bénir le cheval. Jamais il va voir, tiens, lui, il est chétif, il est malheureux, là, il est maladroit, il est lent comme un escargot, je vais le choisir. Je vais courir avec lui. Je ne sais pas comment ça se dit. Jamais il ne le fera. Jamais il se dira, je vais te prendre toi parce que bon, tu es un cheval, vraiment, tu as l'air trop nul. Mais au moins, on va s'occuper bien de toi, comme on le fait avec les chevaux de course. Tu seras bien nourri. Si tu es malade, on s'occupera bien de toi. Non, sa motivation, c'est pour lui. Pour lui. Et pour lui seul. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas agi ainsi. Si Dieu nous a élus, est-ce que c'est grâce à notre qualité ? Est-ce que c'est grâce à notre consécration ? Non. Tu n'étais pas consacré. Tu n'avais pas encore prié. Dieu t'avait déjà élu. Est-ce que c'est grâce à notre habilité à diriger, à gérer les choses, ou encore à parler ? Est-ce que Dieu nous a choisis, nous a élus, parce qu'on avait une facilité à communiquer l'Évangile ? Non. Est-ce que c'est pour nos facultés naturelles ? Non. Dans Jérémie 1, on peut aller ensemble et garder votre page d'Éphésiens. Dieu est vraiment bon. Jérémie 1 au verset 4. Dieu va dire, je vais un peu vite, mais parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je pense. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu déclareras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche, et au verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu, Jérémie ? Je vois des gens devant moi en train de m'écouter. Non, non. Je répondis, je vois une branche de l'amandier hâtif. Dieu va appeler le prophète Jérémie avant même sa naissance. Avant même sa naissance, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Lorsque Dieu a parlé à Jérémie, c'était vraiment une révélation pour Jérémie. Il venait de l'apprendre. Mais pour Dieu, ce n'était pas une révélation. C'était déjà quelque chose qui avait été écrit et déterminé à l'avance, depuis la nuit des temps. C'était une révélation pour Jérémie, mais pour Dieu, ce n'était pas une révélation. Dieu savait déjà. Et Dieu veut nous faire passer par des chemins. Dieu a dit qu'il avait préparé des œuvres bonnes afin qu'on y marche. Dieu a en réserve pour nous de grandes choses. Et pas seulement pour nous-mêmes. Arrêtons de penser à nous, à nous, à nous. Une église qui pense que à elle, c'est une église qui ne sera pas bénie dans sa plénitude. Elle sera bénie parce que Dieu est bon, mais elle ne vivra pas la plénitude de Dieu. Dieu va lui dire, ne dis pas, au verset 7, ne dis pas, je suis un jeune garçon. Dieu va dire, chut, tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Parce que quand Dieu nous appelle, et je ne parle pas simplement, je ne parle pas de l'appel au salut, forcément, ou de l'appel au ministère, je parle des appels en général. Je ne vais pas parler de la prédestination que Dieu avait choisi quelqu'un en particulier pour le sauver. Non, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais il va dire, ne dis pas. Et ce que Dieu veut dans notre vie, il y a quatre choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse ou qu'il veut qu'on fasse. La première, il lui a dit, ne dis pas. C'est ne pas déclarer le contraire de ce à quoi tu es appelé. Nous sommes appelés à beaucoup de choses, mais nous déclarons avec notre bouche le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Des gens qui demandent la prière, ou des gens qui prient pour eux-mêmes, pour avoir quelque chose, imaginons, pour avoir une femme, prie, pasteur, prie, et ils amènent ça dans l'église, réunion de prière, et les gens prient. Au bout de plusieurs mois, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais pourquoi on ne voit pas le résultat? Et les gens, ils se disent, au bout d'un moment, ils se le disent pas vraiment, mais ils se disent, peut-être Dieu ne veut pas bénir, ou Dieu ne veut pas répondre, ou Dieu ne nous a pas entendus. Mais cette personne, constamment, est en train de confesser des choses qui sont le contraire de ça. En se regardant dans le miroir, mais comment quelqu'un pourrait m'aimer? Ou alors se disant, mais tous les gens, de toute façon, dans mon église, il n'y a personne, il n'y a pas de célibataire. Constamment dire des confessions qui sont contraires à ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc la première chose dans notre vie, ce sera de ne pas confesser ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si tu confesses le contraire de ce à quoi Dieu t'appelle, tu pourras prier, tu pourras jeûner 40 jours, tu pourras même mourir, Dieu ne répondra pas. Parce que tu es en train de dire que sa parole est un mensonge avec ta bouche. Dieu veut nous bénir, Dieu nous aime, mais Dieu a des principes qu'il a établis d'avance, il ne peut pas les changer. Il les a déjà établis. Ce sont des principes spirituels. La vie et la mort, le bien et le mal sont dans ta bouche. La deuxième chose que Dieu va lui dire, car tu iras vers tous ceux envers qui je t'enverrai. Et là, ça parle d'une action, d'une marche par la foi. Quand Dieu va t'appeler à faire quelque chose, il va te falloir commencer à agir dans la joie, dans la foi. Il va falloir que tu commences à bouger, à te mouvoir, à commencer à donner à Dieu la possibilité d'agir dans ce à quoi il t'a appelé. On a lu au verset 11, la parole me fut adressée en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ?» Jérémie aurait pu se dire, « Certainement, Dieu va me montrer des myriades d'anges. Certainement, Dieu va me montrer un tonnerre, une montagne qui se fracasse, une puissante vision. » Parce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé en tant que prophète des nations. Je vois une branche de l'amandier hâtif. Une petite branche. Non pas une puissante vision, mais une petite branche. Et Jérémie aurait pu dire, mais je ne vois rien, en s'attendant à voir quelque chose de grand. Et beaucoup de gens pensent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Parce qu'ils se sont déjà, ils ont déjà déterminé la façon dont Dieu doit répondre. Ils ont prié pour une femme, ils s'attendent qu'une femme vienne devant eux. Ce ne sera pas un homme. Hein. Mais la femme sera peut-être là, vacant, à ses occupations, quelque part, je ne sais pas. Mais peut-être pas de la manière dont tu penses. Il va falloir commencer à agir et à croire en la parole de Dieu. La troisième chose, dans le même verset 7, « Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. » Et là, ça nous parle d'une obéissance radicale. Dieu aime et j'aime les gens qui ont le désir d'obéir radicalement. Nous savons que nous péchons tous, mais Dieu aime celui qui a le désir, qui est vraiment zélé pour obéir à Dieu. Dieu aime les gens qui le craignent. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est ce qui te permettra d'avoir tout ce que tu veux dans ce monde. La sagesse divine, elle t'amènera là où tu n'imagines même pas. Elle te donnera tout ce que tu veux. La sagesse de Dieu fera de toi l'employé modèle de l'année, un directeur, un homme de vision, une femme qui atteint ses buts. Une femme, comme dit les proverbes, qui emploie des ouvriers, une femme d'affaires. Obéir parfaitement et déclarer exactement ce que Dieu t'a dit. Faire juste ce que Dieu a dit que tu dois faire. C'est ce que Dieu aime. La quatrième chose qu'il va dire, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et constamment, Dieu dans sa parole dit, ne crains pas. Ne crains pas. Comme je vous l'ai dit, Dieu aime venir sur les gens qui sont secs. Mais quand je parle de sécheresse, je parle de gens qui sont secs mais qui ont soif de changement, qui ont un désir de changer, parce qu'ils croient en la parole. Il y a des gens qui sont secs mais qui n'ont plus aucune foi en la parole de Dieu. Dieu nous demande d'écraser la crainte. Et ces gens qui sont secs, ou même nous, dans notre vie chrétienne, parce que je ne pense pas être sec, ce n'est pas de l'orgueil, mais Dieu m'a rempli du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons tous parfois dans notre vie des oppressions qui viennent. Des oppressions spirituelles. On ne sait pas comment ça vient. On ne le voit pas forcément. Et les oppressions spirituelles viennent amener des pensées dans ta tête qui ne sont pas de toi, mais dont tu as l'impression que ce sont les tiennes. Des pensées d'échec, de découragement, que tu as l'impression que ce sont les tiennes. Tu réalises que tu n'as plus envie de prier, tu réalises que tu n'as plus soif, mais c'est un mensonge. Mais tu penses que c'est toi. Alors puisque c'est toi, tu as du mal à voir le changement. Mais si tu réalises que parfois le diable amène des oppressions spirituelles, mais que ce n'est pas toi, tu vas te lever contre ça. Dieu, le diable, amène des gens dans des conditions où ils ont l'impression qu'ils n'ont plus soif de Dieu. Ils ont l'impression que finalement ce sont des chrétiens du dimanche. Ils n'ont pas cette soif de prier, comme sœur un tel, frère un tel. Ils n'ont pas vu encore de miracles. Ils n'ont pas vu ces guérisons, ces démons chassés. Mais c'est un mensonge. Cela ne vient pas de vous. Si vous avez des oppressions spirituelles dans votre vie, il va falloir y faire face et leur demander de dégager. Leur demander de sortir de votre vie. Les oppressions spirituelles, ce ne sont pas des gens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits des ténèbres. Cela ne veut pas dire que nous allons crier contre tous les démons, parce que nous avons besoin d'être inspirés, et Jésus n'a jamais crié contre les démons. Mais cela nous montre que lorsque des oppressions viennent dans notre vie, nous pouvons y faire face par la parole de Dieu. Peut-être ta vie chrétienne, tu n'imaginais pas qu'elle deviendrait comme elle est aujourd'hui. Peut-être tu vois ta vie chrétienne et tu vois d'autres chrétiens, d'autres personnes, tu entends des témoignages et tu te dis, mais j'aimerais tellement être comme ça, mais je ne le suis pas. Et tu commences à croire que c'est ta condition. Mais ce n'est pas ta condition. C'est une illusion de ta condition. La vraie condition du croyant et ta vraie condition, c'est fils et fille du roi des rois, remplis du Saint-Esprit, pouvant toujours triompher en Christ. La Bible dit, et Joël en a parlé la semaine dernière, qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Et c'est une allusion au cortège triomphal du vainqueur qui amenait ses esclaves derrière lui. Voyez-vous toujours comme ce vainqueur triomphant, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il nous fait toujours triompher. Et tu dois écraser la crainte dans ta vie. Il y a des craintes qui viennent, mais elles ne sont pas de toi. Elles ne viennent pas de toi réellement. La Bible dit que nous sommes en trois dimensions. Pour ceux qui auront la grâce de faire l'Institut biblique, on va passer environ 12 heures à enseigner sur l'homme en trois dimensions. Et c'est vraiment un message qui m'a profondément transformé. J'ai passé des années dans des églises, dans deux églises, quand j'ai entendu ce message. Des années de prédication. Et je n'avais jamais compris réellement l'homme en trois dimensions. Je n'avais jamais compris qui j'étais réellement. Je n'avais pas compris la différence entre mon âme, mon esprit, ma volonté, la volonté de Dieu. Et ce message m'a libéré. La crainte vient dans ton âme, dans tes pensées. Mais ton âme, ce n'est pas toi réellement. Qui tu es réellement, c'est ton esprit. La Bible, Dieu a sauvé qui ? Dieu a sauvé ton esprit. Ton corps, il restera ici. Mais ton esprit va rejoindre Dieu. Et lorsque des oppressions de crainte, lorsque des pensées de crainte viennent dans ta vie, tu ne dois pas les laisser comme ça, ruminer. Mais tu dois t'y opposer radicalement. Et peut-être ça va prendre un temps. Peut-être pendant une semaine, tous les jours, tu devras confesser, non, je ne crains rien. Mais fais-le. Autant que tu déclares la parole de Dieu, ce sera une bonne chose pour ta vie. Dans Deutéronome, on va voir au sujet de Moïse. Et là, je vais devoir courir pour dire ce que j'ai à dire. Deutéronome 34:10, la Bible dit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre ce pays, contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Waouh ! Quelle vie ! Quel témoignage ! Quel grand homme ! Quel leader ! C'est un grand leader, n'est-ce pas ? Mais la Bible nous montre que Moïse, au départ, il n'était pas un grand leader. Moïse est quelqu'un qui a voulu marcher avec ses propres forces au départ, en tuant l'Égyptien. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse 40 ans dans le désert, mais c'est l'erreur de Moïse qui l'a envoyé 40 ans dans le désert. Parce que Moïse a voulu entrer avant l'heure, et par lui-même surtout, dans sa destinée. Certainement, Dieu n'avait pas parlé à Moïse quand il a tué l'Égyptien. Mais Dieu avait mis dans le cœur de Moïse sa destinée, son appel, quelque part, en lui. Et pendant 40 ans, Moïse va se former une mentalité d'échec, une mentalité de perdant, en se disant « j'avais un rêve et me voici dans le désert avec mes moutons ». Plus rien autour de lui. Plus rien dans sa vie qui puisse lui montrer qu'il est appelé de Dieu. Et cette mentalité était tellement forte que lorsque Dieu l'a appelé au buisson ardent, 6 fois, et dans les jours qui ont suivi, 6 fois, Moïse va confesser ses impossibilités alors que Dieu lui-même lui parle. 6 fois. Beaucoup de gens ont des dons qu'ils pensent être naturels, mais c'est Dieu qui a mis ça en eux. Vous avez des dons dans votre vie. Peut-être vous ne les connaissez pas encore. Mais certains ont des dons et c'est Dieu qui met ça en nous. Nous étions encore inconvertis, Dieu avait mis déjà ces dons en nous. Et Dieu veut que nous puissions les utiliser pour son royaume. Moïse, 6 fois, va déclarer le contraire. Mais Dieu va lui apprendre. Dieu va lui apprendre, petit à petit, à faire confiance en sa parole. Dieu va lui montrer, je suis un Dieu fidèle, je suis un Dieu qui répond. Il y a encore d'autres personnes qui, elles, pensent n'avoir aucun don. Bien des chrétiens, et bien des chrétiennes, je dois dire, qui pensent n'avoir aucun don. Elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles se voient au travers de ce que les gens disent d'elles, et elles se voient au travers de la pensée du siècle présent, qui dit « tu dois être comme ça ». Et elles se voient au travers des mensonges de l'ennemi. Souvent, elles se regardent dans le miroir et elles détournent le regard. Souvent, elles ont des pensées négatives à leur sujet. Parfois, elles se surprennent à rêver à quelque chose et à cause de leur façon de se voir, elles interrompent ce rêve. Mais je vous dis que Dieu met des rêves chez des gens qui ont une mauvaise estime d'eux. Dieu met des rêves dans la vie des croyants. La Bible déclare que parfois, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, vient dans notre cœur et on n'y prend pas garde. J'ai une parole pour ceux qui ont une mauvaise estime d'eux ce matin. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était, et on verra dans l'homme en trois dimensions, que la terre devint informe et vide. Dieu n'a pas créé le chaos, mais la terre devint informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Ça nous parle en hébreu de tohu bohu. Ça ne vous dit pas grand-chose. Informe, c'est tohu. Et ça veut dire la terre était informe, la terre était désolée, la terre était un lieu de chaos. Voilà ce qu'était la terre. Et bohu, vide, nous dit la terre était vide, la terre était nulle, la terre était perdue, la terre était détruite. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Joël nous a parlé d'un mets la semaine dernière. Il nous a parlé du mets qui est dans la bouche des gens, qui les empêche d'aller dans la volonté de Dieu. Et il nous a aidé à ne pas dire ce mets. J'aimerais parler d'un autre mets ce matin pour faire la suite. C'est le mets de Dieu. Tout a commencé quand Dieu a dit « mais ». Au commencement étaient les cieux et la terre, mais l'Esprit de Dieu planait. La terre était informe et vide, oui. La terre était un chaos, une destruction. Elle était nulle, mais l'Esprit de Dieu planait. Ta vie peut être nulle, un chaos, une destruction, mais l'Esprit plane au-dessus de ta vie, et je dirais même dans ton esprit. Le feu habite en toi et tu ne le sais même pas. Dieu va dire à un moment, je consume, je gémis, tellement je me suis tu. Maintenant, je me lève comme un homme en armes. Je crie. Je pousse des cris, des clameurs, comme un guerrier. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le mais, c'est ce qui a tout changé dans ce monde. Ce mai-là, c'est grâce à ce mai-là que nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ce mai, la création serait toujours informe et vide. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait. S'il n'y avait pas eu ce mai, la terre serait toujours tohu et bohu, un chaos, une destruction. Mais Dieu a commencé à déclarer la parole. Le diable t'a peut-être dit que tout est fini pour toi. Mais le mais de Dieu te dit que c'est un nouveau commencement, une nouvelle saison. Le diable a pu te dire toutes sortes de choses, a pu te dire que tu ne te marierais jamais, mais Dieu te dit, je t'ai déjà préparé celui ou celle qui va venir dans ta vie. Le diable a pu te dire que tu vas crouler sous le poids de tes dettes, que tu n'arrives pas à régler. Mais Dieu, le mais de Dieu, te dit que les finances arrivent. quoi que le diable ait pu te murmurer à l'oreille, sache que le mais de Dieu va toujours prévaloir sur la parole du diable. Ça suffit de croire que le diable a plus de puissance que notre Dieu. Dieu a de la puissance. Celui qui vient après le mais, c'est la personne du Saint-Esprit. Avec lui, aucune situation n'est désespérée. Avec lui, le paralytique se lève. Avec lui, celui qui dormait se réveille plein de zèle. La Bible dit qu'il planait au-dessus des eaux. Vous savez, ces eaux, elles étaient congelées. Je vous le montrerai dans l'homme en trois dimensions. Inscrivez-vous. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux congelées. Aucune terre pour Dieu n'est trop congelée. Aucune terre pour Dieu n'est trop sèche. Aucune terre pour Dieu n'a pas d'importance à ses yeux. Mais toute terre a de l'importance pour Dieu. Aucun être n'est sans valeur pour Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui, un si grand Dieu s'intéresse à l'infiniment petit. Dieu, vous savez quoi? Il a voulu récupérer la terre. Il a voulu récupérer ce chaos et cette destruction. Il a voulu faire de la récupération, du recyclage. Et le diable a dû mépriser le Père quand il a vu Dieu commencer à créer. Il y avait une bataille entre Dieu et le diable, ce qui a amené le chaos sur la terre. Vous pourrez lire ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, introduction à l'homme en trois dimensions. Et c'est pour ça que la terre était devenue ce qu'elle est. Le diable avait été projeté sur terre. Pas étonnant que ce soit le chaos. Et certainement Dieu a voulu montrer au diable, je ne vais pas laisser cette terre comme ça, parce que Dieu n'aime pas laisser le chaos et la destruction. Mais l'homme va régner sur toi. Oui, toi tu vas lui écraser le talon, mais lui va t'écraser la tête. Et on doit entrer dans cette réalité. Et ce que Dieu aime faire, c'est prendre ce qui ne vaut rien à nos yeux et en faire un chef-d'œuvre pour son royaume. Il arrive parfois que tout semble fichu, que la vie soit un chaos, qu'il n'y ait plus vraiment d'espoir. Et Dieu plane au-dessus des cœurs qui ont soif. Il a promis dans sa parole de nous donner de l'eau vive. Est-ce que vous avez déjà vu la description de Jésus? Rien pour attirer le regard. Il est sorti d'une terre desséchée, une racine, comme un rejeton, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Est-ce que c'était sa nature? Non. Est-ce que c'était ce qu'il vivait? Oui. Est-ce que Jésus s'est arrêté à ça? Non. Jésus a manifesté le royaume de Dieu. Je cherche où je vais avancer dans mon message. Parce que je vois qu'il ne me reste que 7 minutes. Ou moins peut-être. Un homme patient. On va aller dans 1 Corinthiens. Au chapitre 1. Et au verset 5. Au verset 27, pardon. 1 Corinthiens 1, 27. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. J'aime tellement ce verset de la parole de Dieu. C'est un de mes versets préférés. Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise estime de moi-même. Quand j'étais rétrograde, et même après ma conversion, à la fois je pensais être le meilleur parce qu'il y avait de l'orgueil dans ma vie, et à la fois quand je regardais ma vie, je pensais être le plus nul. Quand je regardais qui j'étais réellement, je sondais mon cœur et je réalisais que j'avais des faiblesses. Je croyais presque avoir tout vu, pouvoir tout faire. Et Dieu m'a montré un jour, il m'a dit, tout ce que tu dis avoir fait, tu n'as été au bout d'aucune de ces choses. Ça a été une parole qui m'a vraiment transformé. Dieu vient encourager, mais Dieu vient parfois reprendre aussi. Et il y a des gens qui ont un esprit de rejet, ou qui se sentent sans valeur et rejetées, et à cause de ça, elles se sentent obligées de dire tout ce qu'elles font. Et il faut aimer ces gens. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde. Et Paul va dire au verset précédent, il n'y a parmi vous qui sont appelés pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants. Nos propres facultés, nos expériences personnelles sont une bonne chose. Mais ce n'est ni nos facultés, ni notre expérience qui nous amèneront vers le succès divin. Nos succès nous encouragent à voir plus loin, mais vous pouvez avoir beaucoup de succès et complètement déraper. Dieu a pu vous dire un jour, tu fais ceci, et tu l'as fait, ça a marché, waouh! Et même pas deux jours après, tu te retrouves dans la même situation et tu te trouves complètement désemparé. Tu as besoin d'une nouvelle eau, d'une nouvelle onction. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Tu peux être une épave, un échec terrible. On a pu t'appeler le dernier de la classe, le zéro, le dernier. Ce n'est pas ta condition. Que le faible dise « je suis fort ». Dieu peut transformer les faibles en forts. Et même Dieu peut transformer les forts en faibles, comme Nebuchadnezzar. Dieu peut tout. Si Dieu t'a élu avant la fondation du monde, c'est avant tout parce que tu es son ouvrage. Je l'ai dit, tu es sorti de lui. Tu es sorti du cœur de Dieu et Dieu t'aime. Et tout ce qui t'a été donné, cela t'a été donné par grâce. Grâce. Tu n'as rien mérité. La Bible dit qu'en lui, dans Éphésiens 1:4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Dieu nous a élus pour que nous soyons ce que Jésus est. Saint et sans défaut devant lui. Et ça nous parle de notre nature spirituelle. Dieu ne nous a pas appelés à être saints dans notre corps, dans la chair, je parle. Et Dieu sait que nous ne pouvons pas être parfaits dans notre âme. Dieu nous demande de renouveler notre âme, Dieu nous demande de nous occuper de notre corps, mais Dieu nous dit, nous avons été saints, faits saints et sans défaut devant lui. C'est ce que nous sommes devenus. Dieu parle de notre nature spirituelle. Le désir de Dieu dès le commencement, c'était de nous adopter pour célébrer la gloire de sa grâce. Notre vie devrait être une célébration constante. Notre vie devrait être constamment une église qui bouge. Notre vie, ça devrait être un groupe de louanges qui se balade dans la rue. Notre vie doit être un culte permanent, servant à la louange de sa gloire. C'est ce que Dieu nous appelle à être, une célébration constante. Si tu existes sur cette terre, cela doit être pour célébrer la gloire de sa grâce. Tout nous a été donné par grâce. Nous n'avons rien mérité. Ce n'est ni tes défauts, parce que Dieu ne te choisit ni pour tes qualités, mais gloire à Dieu, il ne te choisit pas non plus pour tes défauts. Il t'utilisera tel que tu es. Il te bénira. Il t'amènera dans les hauteurs. Il t'amènera là où il a décidé. Dieu va amener une source dans ta vie. Les gens aiment les prophéties. Et certainement, parmi vous, plusieurs aimeraient que je prophétise individuellement pour vos vies. Et j'aime aussi quand Dieu me parle de cette façon. Je préfère quand il me parle intimement, mais j'aime aussi quand il le fait. Mais la parole de Dieu, c'est une prophétie pour nos vies. Alors je peux vous dire avec assurance que Dieu va amener une source d'eau vive dans votre vie. Que Dieu va faire recouler ces fleuves d'eau vive dont il a parlé. Je peux vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il vit à l'intérieur de vous. Et que ce feu va bouillir de plus en plus. Je veux vraiment proclamer et dire sur la vie de ceux qui ont soif ce matin, que si vous donnez du temps à Dieu, si vous commencez à mettre le royaume de Dieu et sa justice au-dessus de vos besoins personnels, au-dessus de votre temps personnel, si vous commencez en vous réveillant le matin, non pas à regarder votre iPhone pour voir vos emails, non pas à manger, non pas à vous plaindre, non pas à regarder qui est là dans la maison, mais si vous commencez à donner ce temps-là à Dieu, Dieu va venir faire des choses exceptionnelles, extraordinaires dans votre vie. La pile ne marche plus depuis une heure, donc je pense qu'il me reste encore une heure. Dieu va faire des choses nouvelles pour vous. Et Dieu veut vraiment que vous puissiez avoir un cœur pour les gens. Dieu aime tellement les gens. Pour finir, Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus ne pouvait pas faire les choses par lui-même. Et il ne voulait pas faire les choses par lui-même. Même dans le jardin de Gethsémani, il a dit, non pas ma volonté, Seigneur. Vous savez, il aurait pu faire sa volonté. Il aurait vraiment pu faire sa volonté. Parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté. Et que ça puisse vraiment être une prière pour nous ce matin. Seigneur, non pas ma volonté. Je me donne entièrement à toi. Je vais prier si vous voulez bien. Et si ça vous dit de confesser cette prière après moi, comme ça on sera ensemble dans l'unité. Si vous croyez que ces paroles sont pour vous, qu'elles peuvent être une réalité dans votre vie, on va s'accorder un moment. Père Céleste, je te remercie pour cette parole qui me bénit. C'est ta parole. Je réalise, Seigneur, que ce n'est pas par moi-même que je pourrais avancer dans ma vie chrétienne. Je réalise que tu aimes les gens. Et je sais que tu m'aimes. Je te demande de m'aider, Seigneur, à chercher ton royaume, à chercher ta justice, par-dessus tous mes besoins. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Et je viens aussi te dire que je veux être obéissant jusqu'à la mort. Et je te prie, Père, de me diriger par ton esprit pour amener des âmes à la connaissance de Dieu. Amen. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Et je prie pour chaque personne maintenant ici présente, Seigneur. Seigneur, vraiment, je réclame un feu nouveau sur eux. Je réclame une passion nouvelle, Seigneur, sur chacune des vies. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir réveiller des gens en pleine nuit pour prier. Je te demande de venir réveiller le premier amour, Seigneur, que beaucoup avaient pour toi. Seigneur, qu'ils puissent devenir comme des enfants, comme des adolescents, Seigneur. Te chercher désespérément, comme une personne qui a soif dans le désert, cherche de l'eau. Je prie, Seigneur, afin que tu mettes une soif nouvelle dans cette église. Que tu mettes une soif nouvelle dans les cœurs, afin qu'on puisse vivre, Seigneur, les plans et les buts que tu as déjà écrits au commencement pour cette église EVQ. Seigneur, je te remercie et je glorifie ton nom. Tu es fidèle et merveilleux. Je t'aime, Jésus.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.